vous aussi, vous aimez cette ambiance de foot européen? La ferveur de la compétition, le goût de la victoire? Rien de tel qu'un bon podcast 100% foot pour profiter des meilleures analyses avant le coup d'envoi tout en profitant d'un bon repas livré avec Deliveroo pour ne pas rater une miette de votre match. Mangez comme vous aimez avec Deliveroo. Commandez dès maintenant. Pour votre santé, bougez plus.
RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Sébastien Grax et de Philippe Cuervo, bienvenue dans le podcast After Saint-Etienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts avec aujourd'hui Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec Joss Randall du site peuple-vert.fr qui est là très régulièrement avec nous. Salut Joss.
Salut Gilbert, salut Kevin, bonjour à tous. C'est salut Philippe Cuervo, c'est toute ma jeunesse.
Et Philippe Cuervo contre qui j'ai joué lorsqu'il a fini sa carrière au Red Star.
Incroyable. Ouais. J'ai sorti Cuervo comme ça totalement au hasard et hop, ouais. Ça y est, ça...
Et qui était entraîneur aussi un temps du Red Star en tant qu'entraîneur adjoint.
Ça vous fait remonter des souvenirs divers et variés.
Avec son compère de Garville sur votre aile.
Alors que c'est marrant parce que du coup, Sébastien Grac, tout le monde s'en fout.
Ouais, il a pas marqué l'histoire. Mais...
Bon, évaluation bien sûr de l'after après la défaite à Montpellier, et puis deux débats à suivre. Les Verts jouent-ils vraiment le maintien? Et puis dans ce contexte, comment gérer la Coupe de France qui arrive donc jeudi soir face à Épinal? Le podcast After Saint-Etienne, c'est parti. Un taulier à boulet après le match face à Montpellier. Nouvelle défaite pour les Verts. On va démarrer par les tauliers éventuels, hein, si jamais... on en a qui nous ont sauté aux yeux, mon cher Joss, est-ce que c'est ton cas?
Ah, qui saute aux yeux, non. Après, j'ai bien aimé le match plein d'activité du jeune Fofana, parce que peut-être que ça nous projette un peu vers l'avenir et qu'on a besoin de ça. Et puis, curieusement, notre ami Diony a pas fait un match si dégueulasse que ça dans l'activité. Mais voilà, quand on cite Diony parmi les tauliers, on a à peu près tout dit sur le match, quoi. Voilà, c'est comme quand on cite comme meilleur joueur son gardien de but. C'est jamais très bon signe.
Bon, effectivement, t'as un taulier, Kevin, toi?
Moi, j'ai bien aimé quand même Bouanga, en tout cas sa première mi-temps. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé aussi assez actif. Et par contre, moi, je vais mettre. C'est pas Boulet, parce que, comme tu l'as dit, il n'a pas été mauvais, mais Diony, parce que dans ce match où il a réussi quand même à se mettre en évidence, il n'arrive pas à trouver le cadre ou à mettre ses occasions au fond.
Tu le mets quoi, dans les boulets ou dans les tauliers?
Je le mets Boulet. Boulet, parce que pour moi, il a réussi à se mettre en évidence, mais sans marquer, alors que pour le coup, il a vraiment eu de belles opportunités, il aurait pu récompenser son travail. Et ça, c'est frustrant.
En fait, Diony, c'est un boulier. C'est mi-taulier, mi-boulet.
Voilà, exactement.
C'est pas mal.
Ouais, c'est très bien, ça.
Bon, très bien. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que j'avais mis, moi? Saliba, qui a fait un match. En fait, c'est les jeunes qui ont été plus. Qui ont
assuré. Ouais, les jeunes, ouais, c'est ça. Ouais. Hein, globalement. Ils ont montré plus d'envie, en fait, plus de punch, plus d'initiative aussi, j'ai trouvé. Ouais. Mm. C'est vrai pour Saliba aussi.
Bon, et puis les boulets, bah, y en a quelques-uns. Hein. Moi, je suis désolé de m'acharner sur Ruffier, ouais. Semaine après semaine, mais il est le symbole quand même grandement des difficultés stéphanoises du moment. Voilà. Après, attention, 8 défaites sur les 10 derniers matchs, on va en parler, mais c'est pas non plus le match le pire de Saint-Etienne ces dernières semaines. Hein.
Non.
En première mi-temps, je pense qu'ils ont carrément dominé même Saint-Etienne. S'il y a une équipe qui méritait d'ouvrir la marque, c'est plutôt les Verts, et Montpellier a plutôt marqué contre le cours du jeu.
Ouais, mais je trouve ça presque pire, moi, ce que vous dites là, parce que je suis d'accord, mais effectivement, au moins, sans remonter sur les 10, sur les 3 derniers matchs, le match de dimanche, c'était probablement le meilleur, mais on n'arrive pas à le gagner, alors qu'on joue 60 minutes à 11 contre 10. On se crée des situations, mais on ne marque pas. Enfin,
il y a un éternel problème de buteur, quand même.
C'est un constat qui est un peu alarmant. Moi, si je devais être alarmé, ce serait plutôt par ça. Voilà. Alors, par contre, visiblement, on est parti pour pas être d'accord sur tout avec Kevin aujourd'hui, mais tant mieux, ça lance le débat. Mais moi, en boulet, alors le terme est fort, mais j'aurais mis au contraire Denis Bouanga, qui d'ailleurs a reconnu lui-même qu'il a fait un match un peu dégueulasse, à cause de son manque d'activité. Il a été actif comme il l'est toujours, mais par son manque de justesse technique, il a tout raté. Les contrôles, les frappes, devant le but. les passes, il a rien réussi de bon, Denis Bonga. Et Dieu sait que c'est un mec qui nous a quand même largement sorti le cul des ronces à un moment où on y était bien, qui a été le meilleur offensif, qui est très probablement toujours notre meilleur offensif, en tout cas notre meilleur offensif parmi ceux qui tiennent debout, parce que ça, c'est un autre sujet profond chez nous. Et du coup, quand Bonga n'a plus cette efficacité-là, ça se sent tout de suite. Hein. On peut jouer, trois jours, on marque pas. Quoi.
Il bouge quand même beaucoup, il est très positif dans son attitude.
Il
a un jeu sans ballon qui est quand même assez intéressant dans sa capacité. Parce que si Johnny a fait un bon match, c'est aussi parce que Bonga, il fatigue quand même pas mal la défense, il attire pas mal l'attention et il fait souvent des bons appels, tu vois. Alors, comme un appel au premier poteau qui profite à Johnny au deuxième ou inversement, c'est plus dans ce sens-là. Mais en effet, on sait que l'attaque des Verts, en termes d'efficacité, c'est famélique.
Débattons maintenant et on va parler du maintien. Ben oui, parce que même Claude Puel en parle hein, après le match. Saint-Etienne, donc 15e, à 4 points de Nîmes, qui est 18e. Bon, à 8 points tout de même du 19e. Hein. Alors, est-ce que c'est trop alarmiste de dire aujourd'hui que les Verts jouent le maintien, ou est-ce que c'est la réalité vraie qu'il faut prendre en compte au quotidien désormais, Kevin?
Alors, je pense clairement que la Saint-Etienne joue le maintien. D'ailleurs, j'ai entendu une interview de Cabaye après le match. Alors certes, il n'a peut-être pas été très bon, mais en tout cas, il a été assez lucide après le match. Et tout de suite, il a quand même pointé le fait qu'il va falloir vraiment se remonter les manches. Parce que tu sais, quand tu es dans un groupe, en fait, en tout cas, vous savez, quand vous êtes dans un groupe de football, que ce soit au niveau professionnel ou peu importe, amateur, dès qu'il y a une histoire de maintien, il faut quand même le saisir assez vite et pas repousser cette fameuse échéance. Vous voyez, c'est le Titanic, quoi. Ouais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis, quand vous êtes vraiment la tête sous l'eau, là, c'est fini, en fait. Donc, je préfère une équipe qui se dit, en professionnel, attention, les gars, on va commencer à se dire que c'est chaud et qu'il va falloir faire très, très attention, même si vous avez encore un petit matelas. Et là, vous donnez d'air rapidement, et quitte à se dire, bon, on a été un peu alarmiste, mais finalement, ça a été que l'inverse.
Alors, voilà l'avis de Kevin global. Et toi, Joss?
Ça fait plusieurs jours maintenant que j'entends cette question être posée. Alors, il y a deux façons d'y répondre. Factuellement, évidemment que oui, la CS joue le maintien, il suffit de regarder le classement. Mais si on en reste à ce niveau-là, si la question est juste, est-ce qu'on fait partie des équipes concernées par le maintien? Oui, comme 6 ou 7 autres équipes. Là où la pression commence à monter, c'est qu'il y a 3 matchs, on avait 10 points d'avance sur le 18e, maintenant on n'en a plus que 4. Donc l'étau se resserre, comme dit mon banquier. La vraie question qui est derrière tout ça, qui est sous-tendue en fait, c'est est-ce qu'on doit flipper d'arriver à se maintenir ou pas. Et c'est là où les avis commencent à diverger un peu, parce que j'écoutais, je crois que c'est Pierre Ducrot qui disait un truc très juste hier. Sur le papier, on devrait pas s'inquiéter. Parce qu'on a largement de quoi normalement s'en sortir sans suer, sans héros. Le problème, c'est que un, c'est pas le papier qui joue, c'est des mecs en chair et en os, et que une fois encore, l'effectif est de nouveau bouleversé parce que Kadri à un moment en a encore repris pour 5 semaines.
Ouais.
Donc je rappelle quand même 2 joueurs qui s'étaient arrêtés, l'un pendant un mois et demi, un peu plus, et l'autre pendant un mois. Ils reviennent, bam, ils reprennent 5 semaines. Donc déjà, l'effectif qu'on voit sur le papier dont tout le monde parle, il est valide qu'à 50%. Et les 50% qui restent, ce qu'ils produisent aujourd'hui, est inquiétant. Donc je pense qu'un des plus grands dangers aujourd'hui serait de se dire, il y en a 2 qui sont quasiment condamnés encore. On a de la chance que les bad boys de Moreno là, aient récupéré le coup à Amiens, parce que sinon la situation serait encore plus complexe. Mais il va falloir faire très attention à pas se dire jusqu'à la fin, on va s'en sortir, parce que de toute façon, sur le papier, on mérite d'être première partie de tableau. Parce que sinon, on pourrait avoir des soucis.
Oui, et puis, en parlant du papier, on peut en parler à Lens, hein, qui avait un des 5-6 meilleurs budgets lorsqu'ils sont descendus en Ligue 2 et qui depuis, ils sont toujours. Et Monaco, comme tu disais, les bad boys de Monaco, ça leur est pas passé loin quand même l'année dernière, malgré sur le papier qu'ils doivent finir peut-être deuxième, tu vois.
Et puis il y a une année, l'année où Monaco descend en Ligue 2, ils avaient un
effectif
qui était très correct. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il avait grand-chose à envier à celui qu'on a cette année. Donc il ne faut pas être trop présomptueux et bien se rappeler que c'est pas Football Manager, quoi. Ça se passe sur le terrain et qu'il va falloir quand même que dans les attitudes, il y ait un peu plus que ce qu'on a vu contre Montpellier, parce que moi j'insiste. J'ai encore pas vu vraiment de rythme, j'ai pas vu de changement de rythme, j'ai pas vu cette capacité à prendre le match à son compte en supériorité numérique. Donc ça, pour moi, c'est un peu inquiétant.
Bon, moi, j'ai du mal à envisager que Saint-Etienne descende. Enfin, je veux dire, tu as quand même un effectif qui est conséquent. Et puis surtout, quand tu regardes derrière, tu as Toulouse, ils sont déjà. Voilà, Amiens, il semble un peu largué. Enfin, je veux dire, il y a largement pire que Saint-Etienne, en fait. C'est ça, moi,
C'est plutôt derrière ça que je me retranche. C'est que j'arrive pas à me dire qu'il n'y aura pas trois équipes encore plus faibles que
Faut vraiment y aller fort, quoi. Tu vois,
Ouais, mais il y a aussi, quand même, messieurs, ce que je disais, c'est-à-dire que ce soit les autres équipes, donc Nîmes et compagnie, c'est des équipes qui sont programmés. Nîmes, Brest, Metz, c'est tous des équipes qui sont programmées pour jouer le maintien. Alors qu'à Saint-Etienne, en parlant de la spirale négative, des résultats, des blessures, des méformes, de la mauvaise ambiance, et là, par contre, ce n'est pas du tout des joueurs et une institution qui est, ou des supporters qui sont programmés pour jouer le maintien. Et c'est ça qui peut faire peur.
Après, ouais, je suis 100% d'accord avec Kevin. Et on peut juste là se dire... Lui, Puel, qui est un peu, qui est capable de charbonner et de motiver les gens sur le combat, on peut se dire ça plaiderait plutôt en faveur du fait qu'il va arriver à les mettre dans cette logique-là. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Pour l'instant, il n'y arrive pas du tout. Parce que moi, je vois pas d'évolution dans, en tout cas, dans la partie intensité et implication des mecs sur le terrain depuis 3-4 matchs. Ça joue au même rythme tout le temps.
Mais dans ce marasme en Ligue 1, il y a un petit éclairci, c'est la Coupe de France. On va en parler tout de suite. Et oui, alors on peut se dire, bon, au final, est-ce que jouer à Épinal, c'est vraiment un cadeau? Bon, peut-être que tu préfères quand même jouer à Épinal que d'aller à Marseille, par exemple, ou à Lyon, c'est ce qu'a donné le tirage, c'est jeudi. Mais dans ce contexte de Ligue 1, qu'est-ce qu'on fait de la Coupe de France? Parce qu'il y a peut-être un coup à jouer quand même en Coupe là, pour les Verts.
Il y a deux solutions au niveau de la Coupe de France, Gilbert. C'est soit c'est une bouffée d'oxygène, ou soit ça te met complètement dans le trou, en l'occurrence pour Saint-Etienne. Parce que, bon, Épinal, petit aparté, c'est le club auquel l'année dernière j'ai terminé ma carrière de joueur. Bon, c'est un bon et un souvenir un peu mitigé. Bon, on avait gagné, donc c'était bien. Mais c'est quand même une belle équipe de foot, une équipe qui n'a rien à perdre, qui voit comme nous que les Verts en championnat, bah, ils sont un peu dans le trou. Et donc, les joueurs et l'entraîneur d'Épinal, ils vont se dire, attention, on va recevoir les Verts pour les éliminer,
c'est
clairement.
C'est craquenard par excellence, quoi.
C'est quand même Crasso, donc l'avancement de cette équipe depuis quelques saisons, qui est un bon joueur, qui a dit que, eux, leur objectif, c'est pas de battre les Verts, c'est de gagner la Coupe de France. Et je peux vous dire que c'est le cas. Alors, ils le feront sûrement pas. Mais ouais, les semi-pros, Gilbert, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Par contre, de l'autre côté, les Verts, ils ont absolument tout à perdre sur ce match.
Jos, qu'est-ce que t'en dis, toi?
Je ne sais pas trop quelle religion me faire. Logiquement, ça devrait être la bouffée d'oxygène qui te donne un peu un truc à jouer dans la saison. Mais dans l'état actuel psychologique des troupes, il vaudrait mieux que ça passe pas à travers, parce que là je suis complètement d'accord avec Kevin, ça peut nous mettre la tête complètement sous l'eau. Après, sportivement, s'ils sont sérieux, ils doivent normalement pouvoir l'emporter, et là pour le coup ça donnerait un petit quelque chose, il restera quand même des beaux morceaux derrière, pourquoi pas d'ailleurs un deuxième derby, on sait rien.
Et pourquoi pas une finale surtout, enfin, le scénario positif c'est quoi? C'est tu te qualifies, derrière tu reçois. Quelle que soit l'équipe que tu reçois, t'es capable de la battre. Enfin, je veux dire, voilà, bon. Et dans un bon soir, et hop, t'es au Stade de France, quoi. Et
oui,
là,
oui,
tu vis quand même un truc génial.
Parce qu'en fait, on communique essentiellement, là, depuis un mois et demi, sur du négatif. C'est-à-dire sur de l'absence de résultats, des joueurs blessés, etc. C'est l'aventure, le bout d'aventure qui donnerait l'occasion de communiquer un peu sur du positif. Et comme je pense
de faire plaisir, de se faire plaisir en suivant les Verts, quoi. Parce que...
Ouais, et puis de s'éclater un peu, parce que là, franchement, c'est dur, quoi.
Entre les problèmes de tribune, les claquettes peignoirs, les problèmes de président, enfin bon, c'est vrai que cette année, c'est vraiment pourri, c'est pourri.
Je viens de te faire une confidence. Après le match contre Marseille, j'étais avec un copain. L'impression était très curieuse parce que, bon, au-delà des problèmes qu'il y a eu en dehors du stade et dont on a senti, nous, les effets, les gaz lacrymaux qui sont arrivés jusque dans le stade, tout le monde pleurait. Décop, moi, je m'attendais vraiment, avec tout ce que Décop avait annoncé comme démonstration de muscles vis-à-vis de la Ligue, je pensais qu'ils avaient profité de ce match-là pour faire péter des fumigènes, etc. Donc je m'attendais, moi, je comptais le prochain huis clos. Il n'y a pas eu un fumigène, il n'y a pas eu une banderole. Il n'y a pas eu une banderole. Je crois que c'est la première fois depuis des années que je ne vois pas une banderole à Geoffroy Guichard. Des banderoles sur tous les sujets, d'ailleurs, anti-président ou des témoignages.
Même pas un petit truc contre Cayazo.
Rien du tout, rien du tout. c'était comme si l'apathie générale avait frappé une espèce de grosse cloche qui était tombée sur le club et qui a englouti aussi le club et les supporters et le stade. C'est vachement curieux, il faut qu'on en sorte de ça, parce que là, c'est une ambiance qui est clairement morose, quoi. Voilà.
Bon. Est-ce que le mieux, c'est ça, ou c'est de faire des feux d'artifice qui t'amènent des huis clos?
Je
me prononce pas là-dessus, je dis juste que c'est quelque chose de suffisamment anormal, en tout cas peu habituel, à Saint-Étienne, pour que ça veuille dire quelque chose. Voilà.
Merci à vous deux, merci Joss, merci Kevin. Jeudi, ce sera sur RMC Épinal Saint-Étienne, bien sûr, si vous écoutez ce podcast après le match. Bon, évidemment, le débat ne vaudra plus rien. Mais bon, on verra si, en l'occurrence, nos scénarios sont les bons. Merci les gars, à la semaine prochaine pour un prochain podcast After Saint-Étienne.
Merci à tous.
RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.